Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
Il est belge, né à Verviers en 1988. Il porte une barbe de Jésus-Christ, un pardessus d'hiver. Sur la scène du théâtre, il commence à parler et ne s'arrête plus. Il a le débit des gens qui en ont gros sur le cœur et qui doivent tout dire en un temps limité. Il sait aussi freiner le tempo lorsque c'est nécessaire. Il peut monter le son, le baisser à volonté. Les voyelles s'échappent de ses lèvres, légèrement arrondies comme gonflées à l'hélium. Cela ne rend pas sa parole volatile. Au contraire, les mots sont lourds de ce qu'ils drainent, la misère, la solitude, l'exclusion, le déclassement. Notre invité David Murgia a un accent, celui de son pays. Ça lui fait une voix chantante, mais rocailleuse aussi. Et de cet accent, il se sert à merveille pour insister, affirmer, suggérer, bref, tirer du texte qu'il profère au Théâtre du Rond-Point toutes les variations. Ce texte, Laïka, est écrit et mis en scène par l'auteur italien Ascanio Celestini. Et vous auriez grand tort de passer à côté de ce sur quoi il lève le voile. Nous ouvrons avec l'acteur David Murgia et à sa lettre A comme accent, notre encyclopédie en mouvement du théâtre qui grimpera dans ces dernières minutes vers le nord de la France et la scène nationale du Bateau-Feu à Dunkerque où nous attend le directeur Ludovic Rojo. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
En cette dernière journée de célébration du 40e anniversaire de la Révolution, on attend impatiemment à Moscou de connaître le sort du plus fameux petit chien du monde, Laïka, qui à bord du Spoutnik numéro 2 fut le premier être vivant à franchir les limites de l'atmosphère terrestre. Aucune indication ne peut être obtenue à ce sujet pour le moment. Aussi, seul le communiqué officiel, qui contiendra prochainement, pense-t-on, des indications sur ce point, permettra de savoir si le premier petit voyageur de l'espace a été ramené sain et sauf sur Terre, ou si au contraire, il compte désormais au nombre des victimes de la science.
Les dingues et les poupées jouent avec leur manie, dans leur chambre blindée, leurs fleurs sont carnivores. Leur monstre crie trop près de la sortie. Ils accouchent de scorpions et pleurent des mandragores. Et leurs aéroports se transforment en bunker. À 4 heures du matin derrière un téléphone, quand leur voix qui s'appelle se change en revolver et s'invite à calter en se gueulant comme un. Les dingues et les poupées se cherchent sous la pluie.
Bonjour David Murgia.
Bonjour.
Alors c'est par l'histoire de Laïka dont se souciait la radio russe en 1957 que nous ouvrons la conversation avec vous. Laïka, c'est le titre du spectacle que vous interprétez actuellement au Théâtre du Rond-Point. Le texte, je le disais, est d'Ascanio Celestini. Et Laïka, c'est aussi le nom de ce premier chien qui fut envoyé dans l'espace à l'abordage du cosmos. Est-ce qu'elle en est revenue ou pas?
Elle n'en est pas revenue.
Elle n'est donc pas revenue.
Une victime de la science.
Sacrifiée. Pour les besoins de la science. C'est drôle parce que en écoutant cette archivina et en voyant le spectacle, je me disais, ce pauvre chien devait aboyer tout seul dans sa capsule.
En orbite.
Ça fait deux fois que vous collaborez avec cet auteur italien, Ascanio Celestini. On vous avait déjà vu en 2015,
oui,
au Théâtre du Rond-Point, dans un précédent spectacle qui s'appelait Discours à la Nation. Et déjà avec lui, vous mettiez l'accent, puisqu'on parle d'accent dans cette émission, sur un pan de l'humanité qui n'a pas souvent droit à la parole. Sur quoi est-ce que Ascanio Celestini met l'accent dans les textes qu'il écrit?
Dans Discours à la Nation, l'accent était mis sur, plutôt de manière plus sociologique, sur des mécanismes de relations qu'il y a entre la classe dominante et la classe dominée. Et on observait plutôt, je dirais, c'était construit avec des petits discours, quatre de citoyens ordinaires qui regardaient par la fenêtre, un pays métaphorique en crise dans lequel il pleut et dans lequel des hommes ont un parapluie et des hommes n'ont pas de parapluie et des hommes ont des revolvers pour se défendre des hommes qui veulent leur prendre leur parapluie. Et donc on est vraiment sur les rapports entre classe dominante et classe dominée, tout en comptant ces aspirants dictateurs, ces puissants qui se penchent au balcon et qui cherchent le consentement de la foule. Et donc on est sur le langage de pouvoir, sur la violence du pouvoir, la violence par les mots, la qualification par les mots et donc la déshumanisation par les mots. Alors qu'ici, on est en dessous encore. On est avec le sous-prolétariat urbain et on est avec ceux qui portent le poids le plus lourd du système capitaliste. On est avec la prostituée, avec le clochard. Et on est plus, je crois, plus qu'avec des mécanismes, avec des humanités. Et donc c'est en ça que les deux spectacles sont différents. Sinon, dans la forme, ils sont relativement semblables, de la mesure où c'est un texte, une voix, accompagné d'un instrument de musique.
Un texte, une voix, un acteur qui est sonorisé, en l'occurrence vous. De quoi est-ce que ça vous soulage, le fait d'être sonorisé, David Murgia ?
Ben, d'abord, l'accordéon, c'est un instrument, il faut y aller pour aller au-dessus de lui. Hein. Mmh. Sinon, je pense que si j'avais pas de micro, je plafonnerais toujours
dans
les décibels.
Vous seriez en lutte avec l'accordéon ?
Oui, je crois, ouais, vraiment. L'accordéon, c'est un instrument très puissant, un soufflet très puissant. Même avec la guitare électrique, c'était ça dans Discours à la Nation. Mais aussi, simplement, la sonorisation permet vraiment d'aller sur travailler différents timbres, différentes émotions, différents rapports au public ou à l'intime. Et donc, en effet, ça me permet... avec Maurice, de donner des élans plus forts, d'être moi-même aussi un instrument de musique sonorisé, en fait, finalement, et donc de faire partie de cette balance son et d'exprimer mon langage à travers les mêmes enceintes que la musique, qui, elle, exprime toute une ligne d'émotions tout à fait particulière que je ne peux pas faire, moi, avec les mots.
Ce qui est de fou avec la sonorisation, c'est un sujet très intéressant, la sonorisation de l'acteur sur la scène du théâtre, David Murgia, c'est qu'au fond, la sonorisation crée l'espace.
C'est le son qui est, pour moi, mon outil principal, qui est mon instrument majeur, dans la mesure où c'est lui qui me permet d'enfiler les mots, et en enfilant les mots, j'enfile les phrases, et en enfilant les phrases, je constitue des images. Et donc, le décor, finalement, il se constitue que d'images que je projette à la manière d'un vidéoprojecteur, finalement. Je me considère plus comme un vidéoprojecteur de cinéma qui projette un film, et donc le texte, pour cela, ce qui est super avec ces spectacles que je fais avec Ascanio, en tout cas pour moi en tant qu'acteur, c'est qu'ils ne sont pas écrits une bonne fois pour toutes, mais ils sont appris dans la suite de séquences des images, et donc je me sens plus comme un vidéoprojecteur, et plutôt que d'avoir de la lumière pour projeter des images, j'ai du son.
Alors, puisque vous parlez de l'écriture, je voudrais vous proposer d'écouter une première archive dans cette émission. Elle convoque l'écrivain Valère Novarina qui, comme Ascanio Celestini, pratique lui aussi une langue qui avance par flux, par vagues, presque par torrent. Voici ce qu'il disait des comédiens pour lesquels il écrit. C'était en 2007 au micro d'Odile Quirot.
J'aime les acteurs qui sont brûlés par le langage, les acteurs dont le combustible est le langage. Et lorsque je commence à écrire, j'oublie complètement qu'ils sont là et je ne peux pas dire que j'écris pour eux. Cependant, ils sont là comme des créatures bienveillantes qui m'attendent, qui attendent le texte. Mais alors j'ai l'impression que j'écris pas du tout pour eux, mais en fait, quand même, au bout d'un certain temps, je les entends. Peu à peu, ils sont là aussi comme des corps, comme une contrebasse, une flûte piccolo, comme quelque chose des niveaux de voix, puisque j'écris donc d'oreille, disons. J'aime pas dire que j'écris pour eux. Je dirais plutôt que j'écris comme eux.
Comment vous l'entendez cette phrase « j'écris comme eux » ? David Murgia.
Peut-être un peu comme Ascanio me l'a confié aussi le texte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est dit que je ne pouvais pas jouer son texte, qui n'était d'ailleurs pas tout à fait écrit, puisque lui, il vient de la tradition orale, donc il n'écrit pas les choses. Il les dit, et à force de les répéter, elles s'écrivent mentalement, et puis ensuite, elles peuvent finir sur un morceau de papier. Mais donc, il me l'a confié en me disant, tu dois te faire ta propre histoire de cette histoire. Un peu comme si j'allais vous raconter une blague maintenant et que vous la répétiez dans une semaine à un repas de famille, vous allez raconter exactement la même blague avec le même mécanisme, la même chute, les mêmes personnages qui interviennent aux mêmes instants, mais vous allez avoir vos images de cette blague et elle sera sensiblement différente. C'est dans cette manière-là qu'on a à travailler et que lui, je pense, m'a confié le texte. Le texte, on l'a réécrit ensemble pour moi, quelque part. C'est ce qu'on avait déjà fait dans Discours à la Nation.
Il parle de créatures bienveillantes quand il parle des comédiens Valère Novarina, ce qui m'amène à une question. Est-ce que le texte crée l'acteur ?
En effet, la manière de se mettre au travail va créer l'acteur que je serai sur ce spectacle-là. En tout cas, donc, c'est-à-dire avec Ascanio, je travaille d'une manière tout à fait particulière, qui est une théâtralité que je voulais absolument apprendre, et donc, je voulais travailler avec, pour moi, ce maître de la narration, et apprendre comment, avec rien, avec pas de décor, avec très peu d'instruments, en effet, juste une voix amplifiée et quatre projecteurs, on pouvait constituer un ensemble d'images. Et ça, je l'ai appris grâce au torrent de mots d'Ascanio. J'ai appris que ces personnages, c'est toujours les mêmes qui sont là, c'est ces déshérités qui sont là dans ce monde, qui sont perdus, n'ont plus que leurs paroles pour se sauver, leurs paroles pour décrire ce qu'ils observent, leurs paroles pour tenter de traduire le monde et de sortir la tête hors de l'eau. Et donc, c'est un flot de mots, c'est comme une logorée verbale qui va donner leur action, qui va donner leur tentative d'émancipation, aller de s'en sortir comme ça.
Ce sont quasiment des soliloques. Mais dans ces torrents, quels sont vos points d'accroche à vous ? Est-ce que c'est la respiration ? Est-ce que ce sont des césures qui sont inscrites à certains moments ou est-ce que ce sont justement des mots qui reviennent comme des motifs en leitmotiv ?
Il y a tout. C'est écrit un peu en effet comme une chanson, c'est-à-dire que moi je peux... C'est ça qui est assez plaisant, c'est que je peux me considérer comme un musicien véritablement avec ce spectacle.
Ce que vous êtes. Hein.
Ou comme un instrument de musique, comme le dit Valère Novarina ici. Et en effet, oui, parce que je construis avec la ligne mélodique de Maurice à l'accordéon, je construis ma ligne de mots et elle est constituée, elle, de refrains. Et un peu comme en jazz ou dans certains types de musique, si vous voulez, de parties excessivement bien construites, rigoureuses et précises, mais aussi de parties beaucoup plus flexibles. Pas qu'elles vont être nécessairement variées d'un soir à l'autre, alors que si, elles le sont sensiblement, mais c'est pas une obligation. Mais en tout cas, ces endroits plus flexibles me permettent de les ajuster à l'instant, de ne pas sortir tous les jours la même note, de partir sur une mineure si je sens que ce soir-là c'est en mineure qu'il faut continuer. Tout ça me permet des mini-transformations et qui donne au texte aussi un air vivant, je crois.
Mais qu'est-ce qui détermine justement le fait que vous allez le sortir sur un mode mineur ou sur un mode majeur ? C'est le public ? C'est l'écoute ?
Il y a l'écoute.
C'est l'état dans lequel vous êtes vous en entrant sur le plateau ? C'est quoi David
Mergier ? Tout ça, je pense que c'est une honnêteté, une sincérité, une recherche de sincérité, c'est-à-dire que faire avec quoi je sais ce que je cherche à raconter avec ce spectacle, je sais pourquoi je parle de ces personnages-là et j'essaye d'en parler le plus honnêtement possible tous les soirs.
Il est important, le premier mot que vous prononcez ?
Ah oui, très important. Les premiers vers, le premier couplet, comme ça je dirais, il est très important. La capture des oreilles à cet endroit-là est très important, un peu comme l'ouverture d'une symphonie. Je pense que les premières notes sont très très importantes, comme les dernières.
Bon, 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 yeah. Bon, 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 bon. We at war. We at war with terrorism, racism, but most of all, we at war with ourselves.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Je voudrais vous faire écouter une autre archive dans cette émission, David Mergier. On va passer un petit peu par la bande, mais je pense que la réflexion qui est amenée par l'archive que nous allons entendre n'est pas inintéressante. Il y a quelques semaines, nous avons appris avec une très grande tristesse ici à France Culture la mort de l'essayiste et journaliste Pascal Casanova qui en 2009 avait publié un ouvrage très très important pour la littérature qui s'appelait « La République mondiale des lettres ». Et elle expliquait notamment dans cet ouvrage comment les pays, selon qu'ils sont plus ou moins favorisés économiquement, produisent un certain type de littérature. Je voudrais vous faire écouter ce qu'elle dit.
C'est Kafka qui a dit ça le premier, au fond. C'est Kafka qui, dans ce fameux texte du 25 décembre 1911, a parlé de ce qu'il appelle les littératures des petites nations, ce que Marthe Robert a traduit par les littératures mineures. Il a dit qu'il y avait comme ça un lien entre la littérature et les nations pour certaines parties du monde qui sont en lutte. Mmh. Et l'hypothèse est celle-là que les œuvres, peut-être plus que les écrivains, disons les œuvres, n'existent que dans leurs relations les unes avec les autres, donc les écrivains aussi, disons, les uns avec les autres, y compris quand ils ne se connaissent pas, ce sont des relations structurelles, et une des formes de relations les plus étranges, ce sont des relations de force, ce sont des relations de domination, souvent déniées ou souvent ignorées. C'est pour ça que je dis que beaucoup d'écrivains, je pense en particulier les écrivains français, disons, un français est universel, comme ça, d'emblée. Le Clésio est universel parce qu'il est français. C'est pas sûr qu'un écrivain nigérian soit universel comme ça d'emblée. En tout cas, c'est un problème pour lui. Mais nous, depuis la France, nous avons une sorte de biais tel que nous pensons que nous occupons une sorte de position universalisée et que nous voyons mal la position des autres. En tout cas, et moi, je dis qu'il faut pas oublier un autre genre de relations qui sont un autre genre de, disons, de domination, de dépendance, qui est la domination proprement littéraire. Mmh. Il y a une loi étrange dans cet univers, c'est que plus on est dominé et plus on est lucide.
Voilà, David Mergier, je voulais vous faire écouter ce qui se dit là sur la littérature, parce que je crois qu'on peut rebondir sur ce qui se dit sur la scène du théâtre et dans les mots d'Ascanio Celestini. Depuis le début, vous employez les mêmes mots, domination, dominé, statut de la parole, qui parle, d'où parle-t-on, qui est autorisé à parler, et je crois que vous naviguez, vous aussi, quelque part dans ces zones-là.
Oui, je crois que c'est en effet vrai, et c'est plus un secret pour personne qu'il y a une domination culturelle. Enfin, pour en revenir à l'accent, par exemple, pourquoi est-ce que Au début, vous m'avez invité pour l'accent, je me suis dit merde, ben, j'ai pas d'accent moi. Et puis après, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est très intéressant parce que ça fait aussi partie du travail que Pasolini a mené dans le sud de l'Italie avec ses cultures mineures, avec toute cette littérature mineure également, avec ce génocide culturel, comme il l'a appelé. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'accent neutre, c'est évidemment cet accent de Paris, c'est évidemment l'accent qui vient de quelque part quand même, c'est pas un accent sans accent, c'est un accent qui centralise quelque chose. Et à quel titre est-ce que l'accent de la prostituée, qui est celui d'un franc-parler...
Qui est un des personnages que vous interprétez
sur la scène. La prostituée que j'interprète dans le texte Laïka, qui a un certain franc-parler, et avec pour lequel... Il y a des spectacles dans lesquels je dissimule mon accent. Je peux faire ça, je peux le faire au cinéma, je peux travailler à le cacher, c'est quelque chose que j'ai appris à faire en tant qu'acteur. Mais il n'y a pas de raison de le faire ici, parce que je défends des gens qui ont un accent de la dignité, un accent de leur culture propre, leur culture populaire, qui ont un accent du franc-parler. Le franc-parler, c'est un îlot de résistance face aux lois du marché ou à l'accent non-accent de Paris. Ça veut dire quoi avoir un accent ? Ça veut dire quoi trimballer sa propre culture ? Et effectivement, aujourd'hui, on assiste un peu partout, chez nous, à Liège aussi, on voit de plus en plus les gens ressembler, pratiquer l'accent dominant, en fait, ça veut dire, ou pratiquer mettre en ordre leur vie quotidienne, comme ça se fait à travers les cultures de masse, à travers les cultures de la télévision, etc., etc. Et donc tout ça, en effet, c'est un travail, je crois, que mène Ascanio à travers ses entretiens, quand il part à la recherche de récits, quand il récolte des récits en Italie, quand il va interroger le manutentionnaire africain, quand il va, qui est aussi un autre personnage du spectacle. Tout ça, c'est la sauvegarde d'une culture populaire et lui rendre une dignité et une véritable fonction aussi.
Alors justement, sur l'accent, nous avons convoqué une dernière archive dans cette émission. Mmh. Il s'agit d'un comédien qui lui aussi a une sonorité très particulière, c'est le Suisse Jean-Quentin Châtelain.
Bon, déjà, ce n'est pas une signature, à laquelle j'attache de l'importance, puisque j'essaie de la faire disparaître. Enfin, quand le naturel... il revient par la fenêtre. Il y a de ça aussi, hein, c'est que jouer aussi, c'est pas forcément une diction que j'ai dans la vie, si vous voulez, mais jouer implique un certain engagement qui fait qu'on retrouve ses racines, peut-être. Enfin, moi j'aime beaucoup aussi les acteurs qui ont des accents, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas développé le mien, mais je me dis que quelqu'un qui entend quelqu'un avec un accent, comme Maria Cazares, ou des acteurs étrangers qui parlent en français, on les écoute plus, puisqu'on doit faire un effort.
Moi, je suis là très, très intimement d'accord et assez ému parce qu'il dit, quand il dit jouer, c'est renouer avec ses racines. Moi, je viens d'une culture où le théâtre et la culture ne sont jamais rentrés à la maison. Et donc, moi-même, j'ai perdu un accent très, très prononcé. Vous n'avez pas idée à quel point j'avais un accent quand j'ai grandi à Liège. Et tout ça, j'ai appris à le perdre en changeant de classe sociale progressivement, en habituant à des nouveaux cercles culturels, etc. Or, ici, il y a une évidence dans le travail que je mène avec Ascanio, c'est que la vieille que je raconte, c'est ma grand-mère. C'est une immigrée italienne qui est arrivée en Belgique et elle a un accent très spécial parce qu'elle a l'accent italien mais liégeois, et il y a maintenant une langue italo-belge parce qu'il y a eu beaucoup d'immigrés italiens qui sont venus en Belgique et ils ont inventé presque un wallon italien comme ça qui est très particulier, qui est encore une nouvelle culture comme ça. Et aujourd'hui ma grand-mère espagnole qui est retournée en Espagne dit de temps à autre des choses comme kenafe, et kenafe c'est en fait une contraction de oh là là quelle affaire, mais avec un petit accent espagnol qui lui restait avant et un reste de liégeois de quand elle a passé ses 30 années où elle a vécu à Liège, et tout ça elle l'a rapporté à Via Viciosa de Cordoba dans ces montagnes tout près de Cordoue. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que moi je renoue plutôt en fait avec quelque chose d'intime et de populaire à travers donner de la lumière à toutes ces personnes qui sont cachées et que même nos yeux préfèrent ne pas voir. Je relis avec quelque chose de mon enfance plutôt que de signer un style en fait, ça c'est sûr et certain, c'est trop des personnages qui sont proches pour moi.
Il y a une chose qu'on se dit lorsqu'on voit Laïka, qu'on se dit souvent au théâtre, mais là encore plus quand il s'agit d'aller donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, en tout cas à ceux à qui on ne tend jamais les micros, sauf à travers le filtre de journaux télé et d'émissions à sensations dramatisées. Cette chose, c'est que lorsqu'on a la parole, au fond, on a le pouvoir. Que le pouvoir de la parole est quelque chose de phénoménal, David Murgia.
Exactement, ça c'était plutôt ce qui était mis en place comme rapport dans Discours à la Nation, en effet. Ceux qui ont le micro, ceux qui ont la possibilité de dire, ceux qui ont la possibilité de se pencher au balcon et de recueillir les voix. Bien sûr, la parole c'est un pouvoir très très important, et la radio l'a été en temps de guerre, dans des massacres entre les Hutus et les Tutsis, transformer une ethnie en cafard et appeler à l'extermination d'une ethnie parce qu'elle n'est plus humaine, mais parce qu'elle est cafard, et à force d'employer ce mot, parvenir à transformer de manière langagière et puis tout à fait dans les idées, dans les faits, en fait, ces choses, c'est quelque chose d'énorme comme pouvoir, ce que le mot peut faire. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai la chance, parce que du coup, à travers la poésie et à travers le théâtre, c'est une autre manière d'exploiter ce pouvoir. Et je sens les torrents, en effet, où je parcours les textes d'Ascagne, où je sens les potentiels torrents dans lesquels je me fais ensevelir et sur lesquels je dois m'accrocher. Et je sens que c'est très très fort, en fait, la capacité à créer des images, à les rendre concrètes et à jouer avec l'émotion des gens aussi, en fait, quelque chose. C'est un pouvoir, c'est vraiment une forme de domination aussi, quelque part, celui de l'acteur sur son public, en quelque sorte.
Mais je crois qu'on peut parler, vous concernant tous deux, David Murgia, d'un projet totalement politique. Il me semble que ce duo que vous formez avec Discours à la Nation, puis maintenant Laïka, qui sera, je l'espère, suivi encore d'autres épisodes, c'est un projet politique.
Ouais, je crois que ce qui intéresse particulièrement au centre de son travail à Ascagne, ou toujours à travers ses spectacles, c'est comment une personne parvient à se raconter après une période de soumission, après un état, en ayant vécu un état de soumission. Et c'est facile souvent de voir un état de soumission à travers les autres, et souvent nous-mêmes on se rend pas compte de certains états dans lesquels nous sommes soumis et nous ne mettons pas des mots dessus, et ce n'est que plus tard qu'on arrive à le faire. Et en effet, c'est un théâtre politique dans la mesure où il donne la voix à ceux qui n'en ont pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, le clochard qui fait la manche sur le parking du supermarché, ou cette prostituée, on entend parler dans les médias que quand ça fait notice. Si le clochard est mort, ou si la prostituée, on découvre ce réseau de magouilles qu'il a derrière, ou si elle est morte de froid pendant l'hiver, là, on en parlera, on en fera une notice dans un quart de journal. Et ce qui intéresse particulièrement Ascagno en tant que sociologue et en tant que raconteur d'histoire, c'est de raconter toute l'ordinarité, les 99% de cette vie, toute la complexité de ces personnes qui sont les écrasées du système et qui porte la voûte céleste.
Oui, alors c'est peut-être plus effectivement un projet sociologique qu'un projet politique.
Mmh. Et de fait, raconter une histoire sociologique, c'est un projet politique, puisqu'on raconte une vision du monde, porte sur scène une vision du monde et on la donne en confrontation à celle des spectateurs qui feront ce qu'ils veulent avec.
Vous êtes dans quel état à la fin du spectacle, David Murgia ? Physique, mental, émotionnel ? Ça vous galvanise ou ça vous épuise, cette représentation?
Les deux, ça m'affecte et ça me donne beaucoup de légitimité. Je fais un travail qui n'est pas aliénant, je sais pourquoi je le fais, j'en sors tous les jours grandi. Ces personnages m'apprennent beaucoup de choses. Et puis vous savez, quand vous avez de la poésie en bouche, vous pouvez rester avec cinq vers, avec trois poèmes et demi, vous pouvez rester 10 ans. Vous savez, vous pouvez faire le tour dans tous les sens et ce sera toujours une nourriture passionnante. Et ici, j'ai maintenant 2 textes d'1h15 chacun d'Ascagno. C'est pour moi des longs poèmes, des longs chants, des longues lamentations quelque part ici aussi. Et je peux faire le tour de tous les côtés, mais évidemment, ça me prend une partie de moi et c'est le gage à donner. Je dois y laisser une partie de moi aussi.
Le jeune homme qui ouvre la profération, la prise de parole, toutes ces prises de parole de la prostituée aux vieilles qui sont atteintes d'Alzheimer, en tout cas une est atteinte d'Alzheimer dans cette cité, on ne sait pas où c'est, ça peut être n'importe où, n'importe quelle cité de Belgique, de France, d'Europe. Ce jeune homme, il va tous les matins ou presque boire son pastis au bar d'à côté parce que probablement il n'a pas de travail et puis il regarde. Et il voit le désastre qui s'étale à ses pieds. On a le sentiment que vous le connaissez par cœur, ce jeune homme.
Mmh, ouais,
que vous le connaissez même intimement.
Ben, c'est aussi un morceau d'Ascagno, en fait. Hein. J'ai appris à aller dans sa tête aussi, Ascagno, à aller dans la tête de l'auteur. Ça, c'est une chance toute particulière que j'ai, puisque je travaille en étroite collaboration avec lui. J'ai l'occasion de voir derrière ses yeux de temps en temps et d'aller me perdre. Ça se fait pas, mais de temps en temps, je dois pas rentrer dans sa tête pour imaginer mieux les images et voir ce personnage-là, par exemple. Et en effet, moi, j'ai grandi en périphérie de cette industrie abandonnée à Liège, de la métallurgie, qui était en pleine, pas du tout dans sa fleur de l'âge, qui était en pleine décadence quand moi, je grandissais. Et je vois, pour moi, ce n'est pas du tout un monde qui n'existe pas. Ce n'est pas du tout un monde de la littérature. Ce n'est pas rare, même, les personnages qui sont racontés dans ces histoires. Elles sont à côté de chez nous.
Et c'est pas justement dans ces périphéries qu'il faudrait aller le jouer, ce spectacle ?
Si.
Plutôt que au théâtre. C'est très bien qu'il soit au théâtre du Rond-Point, mais enfin, le Rond-Point à Paris, c'est... au bas de l'avenue Montaigne, à côté de l'avenue des Champs-Élysées, c'est très étrange. Quoi.
Ça a une force symbolique toute particulière.
Et ça a une force symbolique particulière, effectivement.
Mais oui. Je le joue beaucoup, donc là c'est la 100e hein, bientôt, et donc je l'ai joué beaucoup en périphérie, évidemment. Mmh. On le construit en périphérie, en fait. On l'a construit à Liège, là, à côté de ces bâtiments industriels dont je vous parlais. Mais alors venir comme petite cerise sur le gâteau à la fin, sur les Champs-Élysées, pour raconter la prostituée et le clochard, pour moi, c'est ça qui est super avec Ascagno, c'est que c'est une langue qui peut être entendu par tous et par des cultures à la fois dominantes ou dominées, peu importe. En fait, les images sont claires, elles racontent notre monde à tous et en fait, elles peuvent être entendues par différentes oreilles, quoi.
Moi, je crois que ce spectacle, vous savez où est-ce qu'il serait très bien ?
Où ça ?
dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon, du Palais des Papes.
Avec plaisir.
Hein ? Il faut qu'on fasse passer le message à Olivier Py. Ce serait super si vous acceptiez de nous dire un court extrait avant qu'on ne se sépare.
Bien sûr.
David Murgia, un court extrait de Laïka.
Pas les premiers mots alors.
Les premiers mots.
La voûte céleste s'affaisse de plusieurs kilomètres. Il n'y a pas de littérature scientifique sur le sujet parce que les scientifiques n'ont pas encore inventé des instruments qui permettent de, comment dire, de mesurer le glissement du ciel. Mais tous les êtres de la création ressentent la mutation qui est en cours, tous. Des 100 000 nègres morts au fond de la mer jusqu'à une petite chienne en orbite autour de la Terre. La différence entre un clochard qui fait la manche sur le parking d'un supermarché et n'importe quel quidam client d'un bar qui est assis au comptoir et qui discute se voit dans le contenu qu'il tient dans son verre. Si dans ton verre, il y a un vin rouge payé dans les règles par toi ou par quelqu'un d'autre, alors les clients du bar t'écoutent comme un prophète. Mais si au contraire, dans ton verre, il y a les quelques petites pièces que tu viens de récolter en faisant la manche sur le parking d'un supermarché, alors là, tu es une honte pour l'humanité. Dans mon verre à moi, il y a un vin rouge payé dans les règles. Et les clients du bar m'écoutent comme Jésus-Christ sur la montagne.
Merci mille fois, David Murgia, d'être passé nous voir dans Une saison au théâtre. Je rappelle que vous jouez Laïka, texte et mise en scène d'Ascanio Celestini. Avec vous, il y a l'accordéoniste Maurice Blanchy. On ne l'a pas dit, mais il y a aussi une voix off qui intervient de temps en temps. C'est celle de Yolande Moreau. Tout cela se passe au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 10 novembre. Je vous incite vivement, amis auditeurs, à vous y rendre. Quant à nous, on ne se quitte pas. On prend la route du Nord et on se rend à Dunkerque où nous attend au téléphone Ludovic Rougeot, le directeur de la scène nationale Le Bateau-Feu.
Merci.
Dans mon parcours, je suis passé par Saint-Étienne, je suis passé par Béthune, donc dans des centres dramatiques. Et en arrivant à Dunkerque, je me retrouve sur un territoire qui est celui de la France, juste à côté de la Belgique. Et c'est aussi avec ces valeurs de l'éducation populaire, c'est-à-dire de la relation aux gens, de la question de l'éducation, la question du partage, qu'on invente dans un territoire aussi particulier que celui de Dunkerque, avec sa situation, voilà, une histoire de la présence de la culture, avec des spectacles, avec la présence d'artistes, avec les habitants. C'est tout ça qui, à la fois, nourrit le projet aujourd'hui du Bateau-Feu, mais qui s'inscrit dans cette histoire longue et importante de la décentralisation théâtrale.
Vous le disiez, Ludovic Rougeot, la Belgique n'est pas loin. Est-ce que vous ne pensez pas que la décentralisation théâtrale devrait se penser à l'échelle européenne et pas seulement à l'échelle française?
Bien entendu qu'aujourd'hui, surtout à Dunkerque, mais j'allais dire même à Clermont-Ferrand ou dans des lieux plus centraux, la question de la relation à l'autre et donc la relation à ceux qui font l'Europe, à ceux qui voient les choses peut-être différemment dans d'autres esthétiques, avec d'autres langues, elle est primordiale. Et quand je vous dis ici, que vous soyez français ou belge, on partage le même territoire. La frontière, elle n'existe pas. Et donc, travailler avec nos amis de Coxyde, de Bruges, de Roselard, d'Ostende, c'est naturel. Et même si on ne parle pas la même langue, on partage les spectacles, on partage les spectateurs, on a envie de faire les choses autrement. Donc, vous voyez, c'est aussi comment on peut se retrouver, non pas derrière des grands dispositifs, mais de personne à personne, pour penser des projets ensemble, des projets où notre territoire, il n'est pas stricto sensu celui où on habite, mais qui est notre territoire, c'est l'Europe, oui.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête.
Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture.
Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive.
Inès Duperron, Jean-Frédéric, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
Qui ne t'avait même pas reconnu. Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense. Ministère de la bière, artère vers l'enfer. Place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.